Vous êtes sur RTL.
Nous serons dans quelques minutes avec Laurent Gérard, comme chaque jour, et Mademoiselle Jade. Mais à 8h41, sur RTL, la revue de presse Amandine Bégaud. Et on parle ce matin, Amandine, argent et foot.
Oui, alors que l'équipe, on l'évoquait tout à l'heure, hein, publie ce matin les salaires de la Ligue 1. Je voulais vous raconter l'histoire étonnante, celle de l'une des stars du championnat allemand, Jakub Błaszczykowski. Pour lui, fini les centaines de milliers d'euros chaque mois, l'attaquant va désormais toucher 116 euros. Pas plus, explique ce matin le site Sportbible. C'est le salaire minimum pour un joueur pro. Błaszczykowski a en effet décidé de rejoindre le club de ses débuts en Pologne, le Wisla Cracovie, un club qui était au bord de la faillite. Là-bas, les joueurs ne sont plus payés depuis des mois. Résultat, en plus de renoncer à son salaire, Błaszczykowski a injecté dans ce club 300 000 euros de sa poche. C'est un peu comme si Ribéry, tiens, par exemple, choisissait de revenir en France pour sauver le club de Boulogne-sur-Mer. Car Błaszczykowski, ce n'est pas n'importe qui. C'est deux titres de champion d'Allemagne avec le Borussia Dortmund. C'est aussi le recordman des sélections en Pologne. Officiellement, il sera présenté aujourd'hui par le club et devrait disputer son tout premier match avec son nouveau maillot lundi.
Alors en plein débat autour du retour des djihadistes français de Syrie, vous nous conseillez aussi ce matin deux témoignages.
Oui, deux témoignages de Françaises parties rejoindre les rangs de l'État islamique. Margot d'abord, une Nantaise de 29 ans, elle en avait 24, 5 de moins quand elle est partie en Syrie. Elle est aujourd'hui emprisonnée dans un camp au nord du pays, un camp contrôlé par les forces kurdes et fait l'objet d'une information judiciaire ici en France. Ouest France a pu malgré tout s'entretenir avec elle une quarantaine d'heures au total via WhatsApp. Margot explique comment elle, qui a grandi dans un milieu plutôt aisé et qui rêvait de devenir danseuse à l'Opéra de Paris, s'est radicalisée. Elle évoque un mal-être. C'est sans doute d'abord cela, dit-elle, qui l'a poussée à se convertir à l'âge de 18 ans. Et puis très vite, il y a eu un premier mariage, un premier enfant, une petite fille. Margot divorcera 8 ans plus tard, en 2012, mais elle doute toujours. Au printemps 2013, elle passe, raconte Ouest France, une bonne partie de ses journées sur Facebook. On y parle d'État islamique qui commence à prendre pied en Syrie. Je voulais, dit-elle, non pas y aller pour faire la guerre, mais pour vivre aux côtés de mes frères et sœurs opprimés. Ma seule intention, poursuit-elle, c'était d'échapper à l'oppression que je ressentais en France pour pratiquer ma religion. La jeune femme repère alors, toujours sur les réseaux sociaux, un homme en région parisienne. Il se marie en quatrième vitesse et puis c'est le départ avec sa fille. Là-bas, Margot a sur ne jamais avoir pris les armes. Elle étudie le Coran, donne naissance à deux autres enfants, multiplie les mariages en octobre 2017, alors que Raqqa, le fief de l'État islamique, est bombardé. Elle décide de se rendre pour ses enfants, dit-elle. Il fallait sauver leur vie. Ousma, 35 ans, elle aussi, elle l'assure, elle n'a pas combattu, elle n'a pas fait la guerre. Mais, dit-elle, ce matin, dans les colonnes de Libération, je l'approuvais, cette guerre. Il ne faut pas se mentir, poursuit cette Française qui a récemment quitté les rangs de l'État islamique. Si je suis revenue, ce n'est pas parce que je ne voulais pas ça ou que j'ai pensé à mon enfant, non. Si j'ai fui, c'est par peur. Elle sait que les djihadistes retranchés dans le tout dernier bastion de l'organisation terroriste à Al-Baghouz perdront forcément. Ils ont face à eux, dit Libé, des milliers de combattants. Libé qui a rencontré la jeune femme alors qu'elle devait être arrêtée et conduite comme Margot dans un camp. La suite, elle n'en sait rien, mais quand on lui parle de retour en France, de la prison, elle répond, après ce que j'ai vécu, ça devrait aller, on s'habitue à tout. Enfin, autre papier qui m'a interpellée ce matin, ça n'a rien à voir. C'est une enquête à lire dans Le Monde, enquête sur le bruit. En Île-de-France, chaque année, explique le journal, ce sont 107 766 années de vie en bonne santé qui sont perdues dans la région. Tout ça à cause des nuisances sonores dans les transports. C'est énorme, c'est la seconde cause de morbidité, comme on dit, c'est-à-dire d'années en moins ou de mois en moins en bonne santé. Derrière la pollution de l'air, 90% de la population d'Île-de-France est concernée. Alors forcément, par exemple, les populations à proximité des aéroports le sont bien plus que les autres. Le bruit perturbe le sommeil, ce qui a des incidences sur notre santé. Il favoriserait aussi les maladies cardiovasculaires notamment. Le bruit qui a un coût aussi en Île-de-France, 5,4 milliards d'euros chaque année. On est presque aussi près que des salaires du foot.
Merci beaucoup Amandine Bégaud. Dans un instant, Laurent Gérard, vous restez avec nous.
Je vais faire doucement pour protéger vos oreilles.
Oui, s'il vous plaît.
Il est 8h45.
Vous êtes très aimable, c'est parfait.
De rien.
Quelle intimité.